Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre, c'est une dernière rencontre aujourd'hui avec vous, Éric de Rust. Bonjour.
Bonjour.
Alors, auteur de ce livre qui paraît actuellement et que l'on peut donc se procurer dans toutes les librairies, Prêtez-vous un chemin de création à l'école d'Edith Stein, paru aux éditions Saint-Léger. Alors, si on veut vous suivre de près, Éric de Rust, vous êtes un peu invisible dans l'espace aussi et ces lieux des réseaux sociaux, on ne vous retrouvera jamais sur Facebook ni sur Instagram, par exemple. Pour quelle raison ? C'est votre choix, que disons, je respecte.
Disons, je n'ai pas fait effort pour m'y trouver et c'est vrai que je n'ai pas pris le temps et je n'en vois pas l'intérêt. Donc, ça ne m'intéresse pas de me trouver sur les réseaux sociaux. Parce que je vous l'ai dit, je suis très pragmatique, mes journées ne font que 24 heures. Il y a des obligations comme pour chacun. Je suis marié aussi, donc j'ai une épouse, j'ai une famille, j'ai des élèves, enfin. Donc, il y a des obligations immédiates et puis il y a l'essentiel. J'ai besoin aussi de temps, d'espace pour vouer, consacrer mon écoute et mes forces à ce qui me dépasse. Et je craindrais aussi, je vous l'avoue, que ce système des réseaux sociaux vous attache quand même démesurément à vous-même. Ce que je constate, sans jugement, mais enfin je le constate, c'est qu'un certain nombre de personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont tellement inquiètes de la façon dont elles sont suivies, justement, de près, qu'elles ont tout le temps
liker,
le nez.
Hein,
voilà,
oui, parce
exactement.
Qu'il s'agit aussi de liker.
Les likes, voilà.
Est-ce qu'on est aimé, regardé?
Voilà, donc si vous voulez, non, ça serait une pollution. Je pense beaucoup à ce que disait Benoît XVI de l'écologie intérieure, ça commence par là, l'écologie, et j'ai besoin d'un climat intérieur, j'ai besoin d'une atmosphère intérieure. Et si j'ajoute à la multiplicité des tâches auxquelles je ne peux pas me dérober, ce que me demanderait d'être tiré vers l'extérieur, vers suivre mon actualité, non, mon actualité, je n'ai pas d'actualité, j'ai une vie et c'est déjà une actualité suffisante. J'essaie de vivre, j'essaie d'engager toute mon âme dans ce que je fais. Après, je crois qu'un livre rejoint toujours les lecteurs qu'il doit rejoindre. Et donc, je n'ai pas à être trop obsédé par le fait de tenir au courant les personnes. Je pense que une parole, si elle est consistante, elle ferait son chemin pour trouver ses lecteurs. Vous savez, il y a un très beau mot d'un philosophe qui nous a quittés il y a assez peu de temps, George Steiner, qui dit « Tant qu'un texte survit quelque part sur la terre, fût-ce dans un silence que rien ne vient briser, il est toujours susceptible de ressusciter. Un livre authentique n'est jamais impatient, il peut attendre des siècles pour éveiller un écho vivifiant. » Donc le temps ne m'appartient pas. C'est vrai que je ne suis pas soucieux et intéressé pour paraître sur ces réseaux. Ça ne m'intéresse pas, puis je n'ai pas le temps ni l'énergie.
Donc vous ne répondez pas, parce qu'on parle aussi avec ces réseaux sociaux d'évangélisation. Transmission aussi par les nouvelles technologies.
Oui.
Donc je vous entends un peu, je vous vois. Oui. Vous souriez, vous n'y croyez
souris...
ou à moitié
Bon, je pense que c'est toujours une question de nécessité intérieure. Si en conscience un être s'y sent appelé, pour ma part j'ai ce très beau mot de Benoît XVI à l'occasion des JMJ en Australie qui disait, en citant je crois Jean-Paul II, la mission est d'abord un rayonnement. La mission est d'abord un rayonnement. Et mon expérience c'est qu'il y a des vies qui rayonnent et dont on entend assez peu parler, mais dont le rayonnement est tel qu'elles peuvent changer votre propre vie. Moi, je trouve que le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de dire que sa présence est inspirante. Et pas visible, pas bruyante, mais inspirante. Et je pense que ça ne dépend pas de l'importance qu'on a sur la toile. Donc, l'évangélisation, c'est quoi ? C'est l'annonce d'un mystère qui est vie et qui a du sens. Et donc, on a l'évangile. Donc faisons-le rayonner d'abord par nos vies, hein. Prêtons-lui voix dans les fibres de notre existence ordinaire, et si cela nous est demandé et donné, alors peut-être parlons, mais sinon vivons-le.
Alors donc, vous parlez de l'interprétation de l'évangélisation, oui. Quelle est au fond, pour être dans cette attitude d'évangélisation, de oui. devenir missionnaire et évangélisateur, et répondre peut-être à cet appel qui peut nous dépasser,
oui.
l'attitude la plus juste au fond.
Mais le serviteur, et le serviteur qui est l'ami.
Qui n'est pas plus grand que le maître.
Et qui
surtout.
N'est pas plus grand que le maître, celui qui se tient avec le tablier. Qui veille, hein, l'état de veille. est rester éveillé. Et je pense que, pardonnez-moi, mais parfois être sur la toile, c'est s'endormir. S'endormir sur sa propre image, s'endormir dans ses propres bras. Il y a quand même aujourd'hui un narcissisme assez primaire qui est diffusé partout et dont je vois qu'il ne rend pas les gens du tout plus heureux, mais au contraire toujours plus inquiets. Et on ne trouve pas la paix dans cette forme d'inquiétude. Donc je crois en effet qu'il faut être serviteur, il faut se mettre à l'écoute, au service. C'est un autre qu'on doit servir, ce n'est pas notre propre image. Je n'ai pas à m'annoncer moi-même. Qui est-ce que j'annonce? Ce n'est pas moi que j'ai annoncé, ça n'a aucune importance. En fait, on n'a pas attendu 21 siècles pour entendre parler de moi. C'est absurde. Donc non, il y a bien plus intéressant. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me survivra, c'est ce qui peut rayonner de plus grand que moi, c'est ce qui humblement m'a permis de tenir vivant. C'est le message quand même du Dieu amour, du Christ, de cette plénitude de vie qui est un chemin de vie dans la douleur et dans la mort même.
Alors vous écrivez, je conseille donc ce dernier livre qui invite aussi à un chemin et puis à devenir au fond, si on devait nous éloigner des réseaux sociaux,
oui.
Si on devait, chacun est invité à devenir interprète.
Ah oui.
Mais il y a un positionnement, il y a pour ce positionnement ce devoir de s'asseoir, de faire silence.
Oui, d'écouter, de revenir vers le cœur, vers l'intérieur, vers le centre, parce que c'est au centre qu'une parole s'adresse à nous. Avant de parler, il faudrait que nous puissions entendre la parole que Dieu nous adresse en propre. Il nous a appelés. Il nous a appelés chacun. Et interpréter, c'est quoi? C'est donner corps à cette parole que Dieu a déposée en nous et qu'une existence ne suffit pas à devenir, mais il faut s'y engager. Et c'est ça, être l'interprète, c'est donner toutes les fibres de son existence à une parole, à une espérance qui est déposée au fond de nous, qui est plus grande que notre péché, qui est plus grande que notre misère, mais qui nous lance dans cette aventure immense quand même, qui est l'aventure
de la sainteté. Et qui est un grand défi pour celui qui se décide à saisir avec finesse et intelligence l'interprète.
C'est un
Qu'est-ce que je veux donner ?
Exactement, et de quoi est-ce que je voudrais être la manifestation? Je crois que c'est un immense défi parce que étonnamment ça vous tient dans cette situation d'être à genoux, parce que ça vous met à genoux, parce que c'est tellement grand, parce que c'est immérité, parce que vous n'êtes jamais à la hauteur d'une telle promesse, donc ça vous met à genoux et en même temps ça vous met en mouvement. Parce que ça vous lance dans l'existence, parce que ça vous rend audacieux, parce que ça vous libère aussi, ça vous libère de tant d'images, de masques, d'esbroufes, d'impostures. On n'a plus le temps pour ça.
Vous avez fait un choix. On entend Éric de Rus.
Je dirais
vous avez posé des choix
force,
ces derniers temps.
Mais je dirais qu'à force de poser des choix, c'est comme si j'avais le sentiment de n'avoir plus vraiment le choix ou d'autres choix que de choisir la vie, que de choisir la vérité, c'est-à-dire de choisir de servir. À force d'avoir fait ces choix, un choix en conduit à un autre, un chemin vous fait déboucher sur une clairière et une clairière sur un autre chemin, et finalement, ça se simplifie.
Au fond, la grande question, vous avez discerné qui vous servait ?
En tout cas, qui je désire ardemment servir, parce que je sais qu'un jour, je serai, c'est ma foi, face à face, dans le regard de celui qui m'a aimé de toute éternité.
Et permettez-moi, il y a cette urgence.
Ah mais il y a cette urgence.
On n'a plus le temps, Éric de Rus.
On n'a non seulement jamais le temps au sens où on est mortel, mais en plus aujourd'hui plus que jamais, si on se sent solidaire de nos frères et sœurs en humanité, on doit tout engager de nos forces. Pascal a ce mot que je cite, il faut tout donner. Donc, et une vie n'y suffira pas. Donc humblement, je veux essayer d'être fidèle à ce qui est plus fort que moi, d'être fidèle à ce qui est plus fort que mes doutes, d'être fidèle à ce qui est plus fort que mes résistances, parce que j'ai des doutes, j'ai des résistances, mais il y a quelque chose de plus fort.
Oui, mais vous ne résistez plus à quoi ?
Je ne résiste plus à l'amour, je crois. C'est-à-dire, j'accepte d'être aimé alors que je ne vois pas que je le mérite, mais j'accepte que je suis aimé plus que tout. Et ça me met en paix aussi avec moi-même, ça me réconcilie avec moi-même, avec les autres, avec la vie, et ça me met aussi quand même dans l'action de grâce, en dépit de tout. Je crois que, en dépit de tout, je remercie d'avoir été créé.
un homme libre aujourd'hui.
En tout cas, on voit dans, sur un chemin de libération, je l'espère.
Merci beaucoup pour ces quelques entretiens. J'espère vous recevoir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Je ne sais. Prêtez-vous un chemin de création à l'école d'Edith Stein, paru aux éditions Saint-Léger, et l'apparition est cette semaine. Merci.
Merci à vous. Au revoir. Merci.